Radio Prague, les informations. Bonjour, économie, la République tchèque est seulement 17e du classement européen de l'innovation. 7 milliards 650 millions d'euros d'excédent, tel est le bilan du commerce extérieur de la République tchèque en 2011. Et puis enfin, toujours en 2011, le nombre de touristes à Prague a augmenté de plus de 8%. On commence donc avec de l'économie. La République tchèque possède du retard en matière d'innovation. Selon le tableau de bord de l'Union de l'innovation 2012, qui compare les résultats et le potentiel des États membres de l'Union européenne en matière d'innovation, la République tchèque n'occupe en effet que la 17e place. Ce dernier rapport comparatif des résultats des 27 États membres de l'Union européenne, fondé sur 25 indicateurs de performance précis, a été présenté ce mardi à Bruxelles. Ce tableau de bord, en tête duquel arrive la Suède, suivi du Danemark, de l'Allemagne et de la Finlande, épingle les champions de l'innovation, les suiveurs de l'innovation, les innovateurs modérés et les innovateurs modestes, et fait ressortir leur évolution par rapport au dernier tableau de bord il y a un an. La République tchèque se range dans le troisième des quatre groupes en compagnie de l'Italie, du Portugal, de la Slovaquie ou de la Pologne. Économie toujours, le bilan du commerce extérieur de la République tchèque en 2011 a affiché un solde positif de 7 milliards 650 millions d'euros, soit un résultat supérieur de 2 milliards 800 millions d'euros à celui enregistré en 2010. Ces chiffres records ont été communiqués ce mardi par l'Office tchèque des statistiques. Les exportations tchèques dépendent en grande partie de l'état de l'économie de la zone euro et plus particulièrement de l'Allemagne voisine. Les hommes tchèques pourront prochainement très probablement refuser de reconnaître leur paternité jusqu'à l'âge de 3 ans de l'enfant. Cette modification est prévue dans l'amendement à la loi sur la famille qui a été approuvé par le Parlement. Le texte doit encore être signé par le président de la République tchèque avant d'entrer en vigueur. Selon la loi actuelle, les hommes doivent entreprendre cette démarche avant la fin du 6e mois suivant la naissance de l'enfant. Toutefois, en juillet dernier, la Cour constitutionnelle avait déjà décidé de supprimer ce délai de 6 mois, estimant que cette loi constituait une atteinte aux droits des hommes qui doutent de leur paternité et pensent qu'ils ne sont pas les véritables pères. 5 millions 130 000 personnes ont visité Prague en 2011. Il s'agit d'une augmentation de 8,2% par rapport à 2010. Ce total englobe les touristes tchèques et étrangers. La fréquentation des hôtels pragois a elle aussi augmenté de 9% l'année dernière avec plus de 13 millions de nuits d'hôtel passées dans la capitale tchèque. Les chiffres ont été communiqués ce mardi par l'Office tchèque des statistiques. Prague a donc été, et de loin, l'endroit le plus visité en République tchèque et ce devant la région de Moravie du Sud en deuxième position avec un peu plus de 1 million de touristes. Au total, le nombre de touristes étrangers visitant la République tchèque en 2011 s'est élevé à près de 13 millions, soit une progression d'ensemble de 5,7%. Le grand tétra, aussi appelé grand coq de bruyère, a été désigné oiseau de l'année 2012 en République tchèque. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la Société nationale d'ornithologie. Le grand tétra, qui se trouve aujourd'hui uniquement dans le parc national du massif de la Šumava en Bohême du Sud, est menacé de disparition jusqu'en décembre prochain. Diverses opérations de sensibilisation du public seront donc organisées pour appeler à la prise de mesures concrètes pour sa protection. Depuis 1992, la Société tchèque d'ornithologie désigne chaque année un oiseau sympathique et intéressant pour le grand public. Un oiseau est également généralement menacé de disparition. Et puis on termine avec un mot de météo. Comme un peu partout en Europe, le temps reste encore très froid en République tchèque ce mercredi, jour de la fête des Milada. Le ciel est un peu plus dégagé. Seules quelques rares chutes de neige à caractère local sont attendues. Les températures varient entre moins 10 et moins 4 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée par Paul Bauer.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information et bienvenue à l'écoute de l'actualité sur Radio Prague. Au sommaire d'aujourd'hui, une seconde vie pour la gare de Žižkov. Le ministère de l'Éducation devrait prochainement annoncer le classement dans la liste du patrimoine culturel national de l'un des plus grands complexes industriels fonctionnalistes d'Europe. Le prix journalistique Ferdinand Peroutka a été décerné à 3 nouveaux lauréats. Nous écouterons les réactions des principaux intéressés. Et en deuxième partie d'émission, nous vous proposons la rediffusion d'un entretien réalisé avec l'historien suisse Denis Dumoulin qui retrace l'histoire des relations de Tchécoslovaquie avec la Confédération helvétique. Bonne écoute. La gare d'entrepôt de Žižkov devrait retrouver son statut de monument historique. C'est du moins ce qu'a devrait annoncer prochainement les responsables de la gestion du patrimoine du ministère de la Culture qui était revenu sous la pression des promoteurs immobiliers sur le classement de l'un des plus importants complexes industriels européens de la période fonctionnaliste. Retour sur une histoire mouvementée qui oppose depuis plus d'un an les partisans de la sauvegarde des bâtiments à ceux de sa démolition. La gigantesque gare d'entrepôt de Žižkov, dont seule une partie est visible depuis la rue Jan Žilevský près du grand cimetière d'Olchany, peut à première vue rappeler l'architecture du socialisme réel. Ce point de vue partagé aujourd'hui par les partisans de sa démolition est trompeur, puisque selon l'historien de l'architecture et de l'urbanisme Zdeněk Lukeš, la gare d'entrepôt de Žižkov, construite en 1936, est l'un des plus grands ensembles architecturaux de type fonctionnaliste d'Europe. Selon Eva Dvořáková, historienne à l'Institut du patrimoine national, la gare de Žižkov a été construite par les meilleurs ingénieurs et architectes des années 1930 et représente l'une des réalisations les plus ingénieuses et les plus abouties de ce courant architectural en Europe. Alors que la gare n'est plus en fonction depuis 2002, le sort de cet ensemble industriel unique a été l'objet d'âpres tractations au sein des représentants de la mairie de l'arrondissement de Prague 3, opposant d'un côté les partisans de la reconversion à ceux de la démolition. Alors que les responsables de l'Institut du patrimoine national avaient proposé en 2010 un classement de la gare dans la liste du patrimoine culturel, la majorité des membres du conseil de la mairie de Prague 3 s'étaient opposés à cette proposition et avaient soutenu un projet de développement immobilier de grande ampleur soumis par le groupe de promoteurs Sekira. Sous la pression de ces derniers, le ministère de la Culture avait révoqué la demande de classement. Afin de faire appel de cette décision et dans l'espoir d'assurer l'avenir des bâtiments, l'association Tadi Neni Developerovo, c'est-à-dire ici ce n'est pas pour les promoteurs, a vu le jour. Avec le soutien des membres favorables au maintien de la gare au sein du conseil municipal et les responsables de l'Institut du patrimoine, le ministère de la Culture a annoncé que les bâtiments qui composent la gare seront finalement bien classés sur la liste du patrimoine culturel tchèque. Matěj Stropnický est membre de la direction du Parti des Verts, l'un des représentants du conseil municipal de la mairie de Prague 3 et l'un des fondateurs de l'association « Ici, ce n'est pas pour les promoteurs ». Il expose les projets des partisans d'une rénovation et d'une reconversion des usages de la gare de Žižkov.
Comment trouver la meilleure solution pour la prochaine vie de la gare? Premièrement, on veut le chercher avec la société même, dans des discussions, également à travers une exposition qu'on va faire le 8 mars. C'est une exposition qui veut présenter la situation des gares en général, de point de vue non seulement des développeurs ou de la municipalité, mais en général de point de vue urbanistique, architectural. Et pour cela, non seulement on fait l'exposition, mais on fait une conférence internationale. C'est également important parce que à Prague, toutes les discussions concernant l'urbanisme sont assez locaux, assez provinciaux.
La préparation d'une exposition et d'une conférence en mars, c'est une étape préalable à l'ouverture d'un concours international qui déterminera l'avenir de la gare à la suite d'une phase de rénovation.
On essaye de ne pas savoir déjà au début qu'est-ce qui doit être dans la gare après la reconstruction. Nous voulons lancer un concours et dans la commission du concours, d'après nous, devrait y avoir des représentants de la municipalité, des développeurs, mais aussi des architectes, aussi des associations, donc pour qu'on puisse le chercher ensemble.
L'ouverture du concours international dépend de l'intérêt que les partisans de la sauvegarde sauront susciter auprès de la classe politique. Si le sort de la gare est devenu un problème de politique culturelle, la direction de la municipalité de Prague 3, soutenue par les promoteurs, a annoncé qu'elle fera appel de la décision ministérielle sur le statut de monument historique de la gare. Le prix journalistique Ferdinand Perotka a trois nouveaux lauréats. Il a été décerné ce lundi à Radka Kvaškova, spécialiste des problèmes liés à l'éducation, à Jan Benage, rédacteur en chef d'une émission sur la politique internationale de la radio publique tchèque, et à Jaroslav Spurný, journaliste d'investigation du magazine politique Respect. Plus de détails avec Václav Richter.
Le prix Ferdinand Peroutka porte le nom de l'un des meilleurs journalistes tchèques de l'entre-deux-guerres, ayant émigré en 1948 aux États-Unis et collaboré pendant de longues années avec Radio Europe Libre. Le prix a été créé afin de distinguer les journalistes caractérisés par leur intégrité absolue et qui assument la responsabilité personnelle des conséquences de leurs activités. Deux des journalistes qui viennent de recevoir cette distinction sont signataires de la Charte 77, document par lequel un groupe de dissidents a exhorté en 1977 le régime communiste en Tchécoslovaquie a respecté les droits de l'homme et a honoré ses engagements internationaux. Aujourd'hui, évidemment, les grands thèmes politiques en République tchèque ne sont pas les mêmes. Mais les journalistes qui traitent de sujets délicats ont toujours besoin de courage. Parmi les thèmes traités par le reporter Jaroslav Spurný, cofondateur du magazine Respect, on trouve le clientélisme et la corruption. Jiří Kánský, président de l'association Ferdinand Peroutka, explique pourquoi le jury a décidé de décerner le prix à ce journaliste d'investigation.
C'est un homme qui ne craint pas de dévoiler les affaires dangereuses. Je pense que 95% des gens ne traiteraient pas ce genre de sujet par instinct de conservation. Regardez ce qu'il a écrit au cours des deux dernières années, avec quelle profondeur il a analysé la situation, par exemple de la direction de la police et les activités de divers groupes clientélistes. Comment il a dévoilé le fond de toute une série de vieilles affaires de privatisation qui ne surgissent qu'aujourd'hui. Je pense tout simplement que c'est un homme extrêmement courageux.
La distinction qu'il vient de recevoir motivera Jaroslav Spurný pour la suite de sa carrière journalistique.
Je pense que quelque chose manque dans le journalisme tchèque. Il faut expliquer pourquoi nous vivons dans un système qui n'est pas tout à fait accepté par les gens, quelles sont les racines de ce système et comment il est né. Et c'est très compliqué. Je pense qu'il est dans l'esprit des grandes figures du journalisme d'essayer de le faire.
Radka Kvačková, cinéaste de formation, s'est finalement consacrée au journalisme, profession qu'elle exerce depuis 45 ans. À partir des années 1970, elle s'intéresse notamment à l'éducation et à l'enseignement. Elle travaille dans le journal Lidové Noviny et les opinions qu'elle défend sont basées sur une profonde connaissance des problématiques scolaires. Selon Jiří Kánský, en République tchèque, il y a peu de spécialistes qui, comme elle, connaissent cette problématique de manière aussi approfondie. Quant au troisième lauréat du prix journalistique Jan Bednář, ses activités sont directement liées à l'œuvre de Ferdinand Peroutka.
La personnalité de Ferdinand Peroutka revêt une grande importance pour moi. J'ai fait pour České rozhlas, la radio publique tchèque, une longue série d'émissions sur ses commentaires des années 1950 et 1960. Lorsque j'ai commencé à les lire, j'ai été absolument subjugué. Il s'agit de réflexions pleines de sagesse venant d'un homme très cultivé. Quelque chose qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Ce sont de merveilleux textes littéraires. Ferdinand Peroutka est donc pour moi une figure légendaire et j'ai beaucoup d'estime pour le prix qu'il porte.
Parmi les lauréats du prix Ferdinand Peroutka, il y a eu dans le passé, entre autres, le journaliste et homme politique Ivan Medek, le rédacteur en chef du magazine Respect Eric Taberi ou l'écrivain Ludvík Vaculík.
Denis Dumoulin est professeur d'histoire dans un lycée de la ville suisse de Sion et passionné par l'histoire des relations entre son pays et les pays tchèques. Nous vous proposons aujourd'hui une rediffusion de cet entretien réalisé le 16 mars 2010 par Alexis Rosenzweig.
Panorama.
Panorama.
Bonjour Monsieur Dumoulin.
Bonjour.
Vous êtes intéressé depuis quelques années à l'histoire des relations entre votre pays, la Suisse, et la République tchèque.
Oui, ça m'intéresse surtout par le nombre des contacts qui ont existé tout au long de l'histoire entre les pays tchèques autrefois et la Tchécoslovaquie plus tard et la République tchèque aujourd'hui. Ça n'a pas quelque chose de très original, on aurait pu trouver avec des choses identiques avec d'autres pays, mais là, il me semble qu'il y a énormément de choses dans plusieurs domaines et à presque chaque époque.
C'est-à-dire que dans ce que vous avez pu, de vos connaissances et dans les recherches que vous avez déjà pu effectuer, faire remonter ces liens à bien avant l'indépendance de la Tchécoslovaquie.
Ah, certainement, il y a même une très grosse surprise quand on découvre que chez Jules César, il y a une mention des Boyis, c'est-à-dire les ancêtres des Bohémiens et des Tchèques, avec les Helvètes, un siècle avant Jésus-Christ. C'est tout à fait étonnant, et ça se poursuit au Moyen-Âge, et ça se continue à l'époque de la guerre de 30 ans et à l'époque du 19e. Pratiquement à chaque époque, il y a des contacts, peut-être un peu anecdotiques, mais très réguliers en tout cas.
Notamment avec un personnage sur lequel vous avez écrit quelques lignes en tout cas, qui s'appelle William Ritter.
Alors William Ritter est, semble-t-il, beaucoup plus connu à Prague et en République tchèque que chez nous en Suisse. Il est un de ceux qui, par exemple, a découvert l'Europe centrale, un de ceux qui était de langue française, qui a découvert l'Europe centrale et notamment la musique. Il a fait la première biographie en langue française de Smetana. On le voit aussi être ami de Mahler. Mahler aurait peut-être dédié une de ses symphonies à Ritter. Et puis, il est aussi le personnage qui défend un peintre comme Chvabinsky. Et évidemment que tout cela a fait beaucoup pour la connaissance du monde culturel tchèque dans les pays francophones. En dehors de cela, c'est évidemment un personnage plus discutable sur bien des aspects, notamment sur son antisémitisme, mais ça fait partie de cette époque du tournant du XXe siècle qui est si riche au point de vue culturel.
Un antisémitisme affiché qui a fait l'objet de débats jusqu'en France, où ce personnage de William Ritter a fait l'objet de colloques, il me semble. Plus tard, ces liens entre la Tchécoslovaquie, pas encore née, et la Suisse sont marqués par quelques événements également ponctuels, et notamment un discours prononcé par Tomáš Garrigue Masaryk en 1915 à Genève. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, lorsque Masaryk quitte ce qui n'est pas encore la Tchécoslovaquie à l'époque, lorsqu'il quitte Prague en 1914, il passe à Genève pour entrer en contact avec certains Tchèques avec qui il constitue une sorte de groupe de résistance. Et il est prévu d'y rester simplement une journée ou deux. Il va en fait rester plusieurs années en Suisse, avec des interruptions, et à Genève et à Zurich en 1915, il prononce une conférence à l'occasion du 5e centenaire de la mort de Jan Hus, et c'est à cette occasion qu'il va, une des premières fois en tout cas, parler du projet de la constitution d'une Tchécoslovaquie moderne. Et dans l'histoire de la Tchécoslovaquie, la conférence de Genève est considérée comme une des toutes premières étapes. À Genève, on a continué à cultiver le souvenir de cet épisode, aussi bien à la Société des Nations que dans les hôtels, ou l'hôtel où Masaryk était descendu. Et cela a été une étape au moins aussi importante que celle que l'on trouve avec la déclaration de Washington, par exemple.
Les liens entre Masaryk et la Suisse ne s'arrêtent pas là, puisqu'il a eu également de la famille en Suisse.
Oui, alors sa fille Olga a épousé un médecin genevois, le docteur Révillot. Ils ont eu deux fils, et c'est ainsi que le président Masaryk avait deux petits-fils genevois qui sont fréquemment venus passer leurs vacances estivales à la propriété de Lagny. Malheureusement, ces deux fils ont connu un destin assez tragique. Ils sont morts les deux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais les liens ainsi de Masaryk avec la Suisse romande était au moins aussi important sur le plan familial que sur le plan historique, par exemple, ou politique.
Est-ce qu'il reste des traces de Masaryk en Suisse ?
Alors, il y a les bâtiments, les salles qui rappellent le souvenir de son passage à Genève. De plus, une rue est dédiée à son nom à Genève. Et il est certain que parmi les Tchèques émigrés en Suisse romande, le souvenir de Masaryk en Suisse romande est resté extrêmement vivace. C'est quelque chose de très important, surtout si l'on pense que Masaryk était le seul homme politique d'Europe centrale qui défendait une idée de démocratie humaniste, fraternelle. C'était tellement rare à l'époque que ça ne pouvait qu'intéresser les Suisses aussi à cette époque-là.
On parlait de Jan Hus il y a un instant, Jean Hus, plus connu sous ce nom en français. Est-ce que ces liens au niveau religieux ont permis aux Suisses et aux Tchèques de renforcer leurs relations? On sait que plusieurs Tchèques sont allés étudier à la faculté de théologie protestante de Bâle. Est-ce que ces liens sont forts?
Alors, il y a des choses assez étonnantes dans l'histoire de Hus. D'abord, il a été prisonnier dans un château qui aujourd'hui se trouve en Suisse avant d'être exécuté à Constance, dans le château de Gottlieben. Et puis, bien entendu, les Hussites, persécutés ou chassés de Bohême, sont venus assez fréquemment et dans tous les pays d'Europe occidentale, y compris à Bâle. Les frères Moraves également sont présents un peu partout. Il y a des rencontres documentées qui montrent que des missionnaires ou des sortes de porteurs du message hussite avaient une action même dans les pays suisses. Il faut savoir que à l'époque de la réforme, entre autres, les positions en matière religieuse ne sont pas aussi fixes et aussi fermes qu'on pourrait l'imaginer. Il y a des régions aujourd'hui considérées comme catholiques qui ont passé au protestantisme pendant plusieurs années. Il y a énormément de prédicateurs d'un peu toutes les obédiences qui sont en Suisse à ce moment-là. Et le hussitisme, et ainsi que les frères Moraves et toutes les dénominations religieuses tchèques, on en trouve des traces aussi bien à Bâle qu'en Suisse romande, qu'un peu partout en Suisse, même si encore une fois c'est très ponctuel, c'est très anecdotique, mais en tout cas ça existe.
Merci Alexis Rosenzweig pour cet entretien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet www.radio.cz/fr. Au revoir, nasledanao.